Bonjour à tous. À la une de ce journal, une étude réalisée par le professeur de médecine Claude Gott pour la Ligue contre la violence routière est dévoilée par le journal du dimanche, qui révèle les routes où il y a le plus d'accidents mortels hors agglomération et réseaux autoroutiers. Sur la période étudiée de 2006 à 2015, il y a eu au total 80 tués sur les voies sans séparateur médian du département de la Lozère. Les cinq voies où a été recensé le plus grand nombre de décès sont la route départementale 9, la route nationale 88, les RD 806, les RD 906 et la RN 106, représentant seulement 11% de la longueur totale des routes sans séparateur médian, qui concentre 54% des tués. L'ensemble des résultats de l'étude démontre que les voies en bon état sont bien souvent celles où il y a le plus d'excès de vitesse, de trafic et d'accidents. La semaine dernière, l'Association des maires de France en Lozère tenait une réunion d'information relative à la problématique de l'habitat indigne, réglementation, détection, responsabilité et appui aux élus. Car en Lozère, 13% du parc immobilier est qualifié d'habitat indigne. L'objectif de cette réunion était donc d'expliquer aux maires leurs prérogatives, la réglementation en vigueur et leur donner des conseils. Alors justement, quels moyens ont les maires pour lutter contre l'habitat indigne? La réponse de François Bourneau, sous-préfet de Florac.
Alors, d'abord, il faut le détecter, l'habitat. Donc ça, c'est la première chose, c'est repérer et détecter l'habitat avec l'aide des services de l'État, avec l'aide de l'ARS ou de la DDT. La deuxième chose, c'est de signaler les cas. Donc, effectivement, c'est là encore travailler avec l'ensemble des services. Et puis, la troisième chose, c'est traiter l'habitat indigne. Et là, on parle des moyens. Alors, les moyens, ils sont multiples. D'abord, ce sont les moyens des services de l'État qui sont mobilisés pour régler la situation, si possible, à l'amiable, soit avec le propriétaire, soit avec le locataire, ou alors, si ça n'est pas possible, en effectuant des travaux d'office qui peuvent être faits par les mairies. Et les mairies peuvent être aidées par des fonds, notamment d'État, hein, ce qu'on appelle les fonds ANA, Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, qui peuvent couvrir une partie de la dépense qui peut être engagée pour réparer, entre guillemets, ces habitats et les rendre de nouveau décents pour les locataires ou les propriétaires. Sur la Lozère, les derniers chiffres que nous avons remontent à 2016. Ça comprend 13% du parc, ce qui est assez important, hein, puisqu'on est les troisièmes plus mauvais, entre guillemets, d'Occitanie. Donc on pourrait penser que la Lozère est épargnée par le phénomène, mais en fait pas du tout, puisque ça concerne aussi bien les villes que la campagne. On a beaucoup d'habitats indignes en milieu rural. Ça concerne à peu près 4000 ménages, donc ce qui est important, 3900 logements, dont 2500 des propriétaires. Donc vous voyez, sur le nombre d'habitants, rapporté au nombre d'habitants de la Lozère, on a quand même un diagnostic qui est, alors pas catastrophique complètement, mais qui est assez relativement important.
Et les mairies de Florac, de Mende et de Marvejols ont mis en place des opérations de revitalisation de centre-bourg qui luttent contre ces problèmes d'habitat indigne. Dans le cadre de l'opération Un livre pour les vacances, dont l'objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez les élèves qui vont entrer au collège, Pascal Clément, le directeur académique de la Lozère, remet un recueil de fables de La Fontaine aux élèves de CM2 de différentes écoles du département. Hier, il était à l'école élémentaire de la Coustarade à Marvejols. Il se rendra lundi et mardi prochain, respectivement, à l'école des Sources de la Canourgue ainsi qu'au groupe scolaire Jean Bonijol à Mende. Agnès Lelouch du salon de thé Torelia situé place Estoupamande a reçu le prix Jeannot Brajon vendredi dernier à l'occasion de la soirée Les commerçants font leur tour. Elle a obtenu en début d'année le prix Goemio dans la catégorie artisanat gourmand, qui est une reconnaissance pour la qualité de ses produits et de son service. À l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, le musée de Javol a présenté ce week-end sa dernière trouvaille. Pas de céramique ou de nouvelles fondations, mais des casques à réalité augmentée. Vous pouvez dorénavant, en présence d'une guide, retrouver sur 7 points la ville d'Inditorium Javol comme elle était à l'époque. Caroline Bidot, responsable du musée pour la commune Peyre-en-Aubrac.
Alors, les casques sont un nouvel outil dans la multitude des outils qu'on propose aux visiteurs au musée depuis des années pour voir enfin le site tel qu'il aurait pu être au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors les images qui sont proposées, c'est une sorte de résultat presque final, mais on continuera à faire évoluer l'outil, et qui est la mise en image en fait de tout le travail de recherche qui a été mené ici pendant presque 200 ans, et que le musée s'efforce de montrer justement aux visiteurs. Et avec ces casques, justement, on va pouvoir passer de aujourd'hui au IIe siècle avec beaucoup moins de difficultés que ce qu'on avait auparavant. Dans le déroulé, en fait, ça va être pas plus compliqué, mais il faudra quand même passer par le musée parce qu'on ne le fait pas en autonomie simple. Il faut bien imaginer qu'avec les casques, on est vraiment coupé de l'extérieur, on est en immersion. Donc il y a quelques petits ajustements techniques à expliquer, à expliciter en début. C'est pour ça qu'on fait le départ au musée et qu'on l'insère aussi dans la présentation du site. On lâche pas les gens à l'extérieur sans explication. Donc effectivement, on va se positionner en un certain nombre de points, 7. Alors on n'ira pas tous les faire parce que sinon il faudrait une demi-journée, mais on propose une visite d'une heure et demie, donc de quelques points types de la ville. On va se positionner à des points repères qui ont été capturés donc en images en 360, alors plus qu'en 360 hein, puisque c'est en 3D, il y a aussi la hauteur, on voit le ciel, on voit ses pieds. Et ensuite, par le biais d'une sorte de porte du temps, de vortex temporel, on se retrouve au IIe siècle, vraiment en immersion. Et ces images ont été construites à partir des vestiges et des projections en 3D, en hauteur, des vestiges qu'on a effectivement trouvés.
Et par ailleurs, le musée fête ses 20 ans et à cette occasion, une exposition à l'intérieur et à l'extérieur du musée rassemble les objets que les visiteurs ont ramenés depuis 20 ans, objets de l'époque ou pas. En sport, les U17 de l'Avenir Foot Lozère viennent de remporter la Coupe Aveyron Lozère en s'imposant 2-0 contre Millau, un sacre qui s'accompagne d'une victoire en championnat pour terminer cette saison sur un beau doublé. Et concernant l'AFL, l'Assemblée Générale de l'Avenir Foot Lozère se déroule samedi à partir de 9h à la salle de réception du stade Jean-Jacques Delmas à Mende. À quelques jours des grandes vacances d'été, la gendarmerie de la Lozère rappelle le fonctionnement de l'opération Tranquillité Vacances. Pour toute personne partant en vacances, vous pouvez annoncer votre départ à la gendarmerie afin que cette dernière puisse passer à votre domicile ou à votre commerce au cours de leur patrouille quotidienne. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de leur brigade de gendarmerie afin de s'inscrire à ce dispositif. Ce soir à 18h à l'immeuble Lotoran, avenue du Père Coudray à Mende, une conférence vous est proposée sur le thème « La Lozère, pays des sources, quel avenir pour ses ressources en eau dans le contexte du réchauffement climatique ?» avec un focus sur les zones humides par le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère. Enfin, vous l'avez peut-être croisé dans les rues de Mende, le petit train mendois vient de reprendre du service. Des balades ludiques de la ville pour une trentaine de minutes, départ à 14h, 15h et 16h du lundi au samedi.